Je prends la suite pour vous présenter des résultats d'une recherche que nous avons menée avec Christophe Hellou sur la souffrance au travail des enseignants et les évolutions du métier. Cette recherche avait comme objectif de contribuer à des travaux de sociologie du travail qui ont été menés sur d'autres métiers et qui ont été peu menés par contre sur les enseignants. Donc je vais d'abord présenter l'objet de la recherche, les questions d'où nous étions partis, puis vous présenter l'enquête, sa méthodologie de façon assez rapide puisqu'il y aura une séquence du séminaire qui sera consacrée aux questions d'ordre méthodologique. Ensuite, je vous parlerai de la difficulté de parler de la souffrance au travail, à la fois pour les enseignants, mais aussi pour les sociologues, et de la façon dont ceux qui ne sont pas enseignants en parlent, puisque une partie de notre enquête s'est faite auprès de personnes non enseignantes. Christophe, lui, parlera des résultats de l'enquête sur la souffrance ordinaire des enseignants, à quel point ça se situe au cœur du métier, et évoquera également plus rapidement le plaisir au travail, puisque nous nous sommes intéressés aussi à cet aspect. Voilà, donc rapidement, nous sommes partis de plusieurs préoccupations. La première préoccupation était de nous situer loin de ce qu'on pourrait appeler des souffrances extraordinaires, mais qui sont aussi assez rares, et nous situer plutôt du côté de ce que nous avons appelé, de ce que nous avons qualifié des souffrances ordinaires du travail. Nous avions une préoccupation descriptive, mais aussi une question qui était: qu'est-ce qui fait basculer les enseignants de la difficulté à la souffrance au travail? Et cette question-là avait son envers, son exact envers, qui nous intéressait tout autant, à savoir qu'est-ce qui permet aux enseignants de ne pas basculer de la difficulté à la souffrance au travail, puisque somme toute, la plupart des enseignants que nous avons rencontrés ne manifestent pas des signes de souffrance au travail massives et ne sont pas malades et assument leur travail tout à fait correctement. Un autre enjeu de cette recherche était de tenter de construire cet objet, souffrance au travail, dans le champ de la sociologie, alors qu'initialement il avait été travaillé d'abord par la psychopathologie du travail et la clinique, avec les travaux notamment de Christophe Dejour, qui a été précurseur dans ce domaine. Alors, pour ce qui nous concerne, notre cadre théorique nous amenait plutôt du côté de la sociologie de la justification et des travaux de Boltanski et de Thévenot, et qui nous conduisait à nous interroger sur les justifications des acteurs et à essayer de comprendre ce qui faisait tenir les situations et ce qui relevait de la définition de la situation par les interactions, et d'un autre côté, ce qui relevait plutôt de l'utilisation de ressources extérieures aux situations et qui pouvait relever de principes de justice notamment. Alors, nous avons commencé cette enquête dans une période qui se terminait et qui était en plein aussi dans des mouvements sociaux enseignants, puisque l'enquête ethnographique s'est déroulée au moment des grèves des enseignants en 2003, et suite au ministère d'Allègre et de Ferry, le thème du malaise enseignant était devenu très fort dans les médias et ça devenait presque un allant de soi qu'on était, dans le cadre d'une profession, qui manifestait un malaise, comme il était dit. Alors, paradoxalement, il y a relativement peu d'études et de recherches qui ont été faites sur, sur le travail lui-même des enseignants à l'encontre d'autres métiers qui ont été étudiés en profondeur par des chercheurs de disciplines diverses. De même, la France accuse aussi un retard là-dessus, puisqu'au Canada, il y a eu des travaux sur le travail enseignant pour essayer d'en prendre toute la diversité de façon assez importante, notamment les derniers, les travaux de Tardif et Lessard, alors qu'en France, on trouve essentiellement trois chercheurs qui ont travaillé sur cette question, si on énumère, Chapouly, Bourdon, Clébarère, qui ont vraiment essayé de creuser la question du travail enseignant. Alors, peut-être est-ce dû au caractère composite du travail enseignant qui aboutit également à un morcellement de la recherche, si cela est possible. Le travail est plus pris sous l'angle didactique ou sous l'angle de la relation pédagogique. Cela peut l'expliquer. Pour nous, ce qui était important, c'était aussi de partir de l'idée que c'était certes un métier qui avait des spécificités, mais qui n'étaient pas forcément spécifiques. C'est-à-dire que tous les métiers ont des spécificités, mais il y a des points qui peuvent les regrouper, où on peut faire des comparaisons. Donc, nous nous intéressions aux difficultés, mais en creux aussi, c'était une façon de nous intéresser au plaisir au travail, au plaisir d'enseigner. Mais partir des difficultés, c'était aussi prendre en compte le fait que la réalité se donne à voir d'abord, malheureusement peut-être, mais le plus souvent, sous le couvert des difficultés, des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Et pour une enquête, il est plus facile d'étudier les épreuves qui, justement, troublent l'ordre, en quelque sorte, lisse, et permettent de voir un certain nombre de constructions qui ont été faites ou de points obscurs, de points aveugles à travers les difficultés rencontrées. Nous sommes partis tout départ de ce travail, de deux hypothèses. La première étant que l'origine de cette souffrance ordinaire, comme on l'a qualifiée, était certainement liée à un impact assez fort des nouveaux modes de management qui ont été mis en œuvre dans l'éducation en relation avec des politiques d'éducation donnant beaucoup plus de poids à la dimension locale en relation avec une plus grande autonomie des établissements, avec la décentralisation et avec une recherche d'une meilleure efficacité du système scolaire et un souci des résultats qui étaient affichés. Deuxième hypothèse que nous avions, c'était que le contexte avait un poids important dans les conditions de travail et dans l'activité des enseignants et que même selon certains, par exemple comme Agnès Van Zanten, il permettait d'identifier deux métiers selon le type d'établissement d'exercice. Mais en fait, en avançant dans notre travail, nous avons un peu produit d'autres hypothèses et nous nous sommes arrêtés et avons plutôt validé une autre façon de concevoir la question, qui est le fait que s'il y a des difficultés, c'est plus lié au doute sur les finalités et les perspectives du travail enseignant qui amène des conflits de définition et des situations de redéfinition plutôt que d'une crise au sens ordinaire ou d'un malaise de type régressif. Dans ce sens, on se situe plus près d'une définition de la crise comme l'ont esquissé des sociologues comme Simmel ou des économistes comme Schumpeter, c'est-à-dire d'une période de redéfinition des repères et d'adaptation à des univers sociaux en perpétuel changement. Donc, je vous présente maintenant l'enquête que nous avons faite, qui s'est déroulée en trois temps, de septembre 2001 à janvier 2003. Et c'est une enquête qui a eu trois facettes. La première étape, qui a en fait occupé la première année, a consisté à nous intéresser aux dispositifs institutionnels et à enquêter auprès des personnels administratifs, d'éducation et de santé chargés du traitement de la difficulté rencontrée par les enseignants. Nous avons même rencontré des personnes extérieures, des professionnels extérieurs à l'éducation nationale et qui rencontraient eux-mêmes des enseignants dits en difficulté. Donc cette première année a été suivie d'une enquête ethnographique dans cet établissement, qui était 8 au début, puis après c'est devenu 7 établissements, situés dans des contextes socio-géographiques différents. Le recueil de données a été très diversifié, avec des entretiens individuels et collectifs, des observations de situations de travail et de situations de travail dans et hors la classe. Et enfin, troisième facette de l'enquête, c'est l'enquête par questionnaire que nous avons réalisée avec la Fondation Santé de la MGEN, diffusée donc auprès des quelques 500 enseignants des établissements concernés, avec deux volets, un volet plus sur la dimension professionnelle et un volet plus sur la dimension santé, avec un souci qui était de croiser les données ethnographiques et les données statistiques. Donc là, je n'en parlerai pas aujourd'hui, sauf pour dire que massivement, ils ont été très convergents, ce qui a été peut-être une façon de nous rassurer aussi pour notre part. Donc pendant un an, nous avons enquêté sur les dispositifs académiques et surtout ce qui nous a intéressé à ce moment-là, c'était d'essayer de comprendre comment s'était construite la catégorie enseignant en difficulté. Puisque cette catégorie d'enseignants en difficulté correspond vraiment à une construction de la part de l'institution et cette construction s'est faite au cours des 10 dernières années pour l'essentiel. Donc au total, ce sont environ 120 enseignants que nous avons rencontrés pour des entretiens. Je ne parle pas là des rencontres informelles, mais pour des entretiens qui ont eu lieu, qui ont été de trois types. Le premier a été un entretien hors situation, sur la base du volontariat toujours. Le deuxième type, c'était lié à l'observation d'une séquence de cours ou d'autres choses d'ailleurs. Et en règle générale, elle était précédée par un premier entretien et elle était suivie par un autre entretien. Donc cette diversité de recueils, de données recueillies a été nécessaire car il faut bien dire que nous avions affaire là à un objet difficile d'accès. C'est le point que je voudrais évoquer en matière de méthodologie. Dans la mesure où saisir les difficultés ordinaires du métier d'enseignant n'est pas chose facile quand on ne veut pas se limiter au déclaratif. Et il nous semblait qu'une des façons d'accéder plus facilement à cette part pas toujours visible de la réalité du travail, c'était justement d'aller dans les établissements et de saisir le cadre de l'activité enseignante, car ce cadre détermine en partie les difficultés au travail, et surtout c'est là où a lieu l'épreuve de réalité qui permet de saisir les discours et leur construction. Nous avons fait le choix méthodologique aussi de ne pas faire des monographies. Nous aurions pu faire 7 monographies différentes. Or, nous avons préféré tracer des points de ligne de force et de traiter les données recueillies de façon transversale entre les établissements, quitte à faire des points, des gros plans, en quelque sorte, ensuite, sur les établissements. En règle générale, cela nous a permis aussi le choix de l'ethnographie, d'avoir une présence assez longue dans l'établissement, puisque nous sommes restés un an en deux périodes différentes dans l'année, avec une présence de plusieurs jours dans l'établissement. Et ce qui nous a permis d'instaurer une relation de confiance avec les enseignants, sans laquelle les difficultés se disent tout à fait difficilement ou, disons, ne sortent pas d'un registre qui est le registre de la plainte, essentiellement, ce dont je vais parler ensuite. Un petit mot aussi pour dire que nous n'avons pas rencontré que des enseignants, mais dans ces établissements, nous avons aussi rencontré les personnels de direction, les personnels de santé, quand il y en avait également, de surveillance. Alors, effectivement, il est difficile de parler de la souffrance au travail pour les enseignants et pour le sociologue. Pour une bonne raison, c'est que parler de la souffrance, d'abord le terme est chargé, et en plus de ça, c'est un aspect dramatique, et les enseignants n'utilisent pas ce terme d'une façon générale. Ou alors, ils le généralisent, c'est « on », tout le monde, des gens, mais ce n'est jamais eux, de toute façon. C'est quelque chose qui ne se dit pas. Donc, il nous semblait, refusant de nous situer dans une approche psychologisante du social, il nous a semblé nécessaire d'aborder la question d'une façon plus détournée, en étudiant l'expression de la difficulté, et en recherchant des marques objectives également de cette difficulté. Alors, si je me tiens au plan de l'expression des enseignants, on peut dire que l'expression des enseignants se caractérise par sa nature d'euphémisation, puisque la difficulté chez les enseignants se dit toujours sous couvert d'un euphémisme ou d'une métaphore. Enfin, toujours, le plus souvent, c'est la forme qui est utilisée. Ou alors, à moins qu'il ne s'agisse de situations très localisées dans le temps et dans l'espace. Mais là, on est du côté de la crise, de l'exception, de la souffrance extraordinaire dont je parlais tout à l'heure. Donc, d'une façon générale, la souffrance ne se dit pas. Pourquoi ? Par honte. C'est une première possibilité, par manque de temps, par peur d'être mal noté, d'être mal vu. C'est aussi un gris-gris pour conjurer un mal qui pourrait contaminer. La souffrance ou même la difficulté, la simple difficulté au travail, la plupart du temps ne se disent pas, ou alors elle est complètement relativisée. Alors, l'euphémisation se voit dans les mots qui sont employés, dans le discours. Par contre, là où l'euphémisation joue moins, c'est quand le corps ou les actes parlent. Et les enseignants parlent beaucoup de craquer. Quand on leur demande de quoi il s'agit, la description est plus floue et ça recouvre des choses très, très diverses. Mais ce qui est net, c'est que là où les enseignants s'autorisent à parler de leurs difficultés, c'est quand ils peuvent y mettre un nom de maladie dessus. La validation médicale, qu'il s'agisse de maux de dos, de maux de tête, d'insomnie ou de Lexomil pris à haute dose, c'est à ce moment-là que les enseignants peuvent parler de leur souffrance au travail. Donc la reconnaissance médicale autorise à parler de ces difficultés, mais comme d'une maladie. Les enseignants parlent par contre pas mal de l'impact de leurs difficultés sur leur vie privée. Et je souligne le fait que c'est bien plus souvent dans ce sens-là que se fait la porosité que dans le sens inverse. C'est bien plus la souffrance au travail qui déstabilise la famille que l'inverse. Alors, les voies discursives sont très variées pour euphémiser la question. Les enseignants maîtrisent bien le langage en règle générale et ils savent utiliser l'ironie, la dérision, le ton emphatique. Et je pourrais vous donner beaucoup d'exemples qui montrent que le langage est utilisé pour dire les choses sans les dire, bien souvent. Un autre point à noter, c'est la binarité de la description des situations de travail. En gros, où on est dans la difficulté, où ça marche. Où ça ne marche pas, où ça marche. Et quand ça ne marche pas, tout ne marche pas. Comme s'il n'y avait pas d'entre-deux, en fait. En général, les enseignants trouvent que ça ne marche pas quand les choses ne se passent pas comme ils les avaient prévues, quand ils se sentent empêchés et bloqués dans leur travail. L'analyse des entretiens est extrêmement éloquente de ce point de vue. Un autre domaine qui ressort de l'analyse des discours des enseignants est l'association entre difficulté et le registre, un champ lexical autour de la faute et de la culpabilisation. Où on sent qu'il y a chez les enseignants un sens aigu de la dimension normative qui se manifeste et en même temps un malaise sur le fait de savoir ce qu'on leur demande de faire, ce qui leur est prescrit d'une certaine façon. Les métaphores également, j'en ai parlé, sont très nombreuses dans leur langage, dans le discours qu'on a recueilli, et ils tracent au total, ces métaphores tracent une sorte de carte de l'imaginaire professionnel en relation avec la question de la souffrance au travail. La métaphore, en fait, c'est une façon de dire l'indicible, tout en ne le décrivant pas directement. Alors, c'est des métaphores très... On en a fait l'analyse détaillée, mais bon, ça va de l'enfer, le bazar, la galère, etc. Mais ce qui nous a surtout frappé, c'est le point commun entre ces métaphores et ce que ça disait des difficultés et ce que disent les élèves. Il y a là un point commun très fort et on retrouve des images d'enfermement, de contention, de mur, de violence sans visage, de règne du faux-semblant, de mise à l'écart. On peut se dire qu'il y a là tout simplement les ingrédients d'une souffrance humaine dans un cadre social et peut-être que l'institution dans laquelle cette expérience se développe, sécrète ces ingrédients-là, c'est possible aussi. Alors, on parle beaucoup aussi de la plainte des enseignants et les métaphores ne sont pas du registre de la plainte. C'est aussi une question à noter. Les métaphores sont plutôt révèlent plutôt la violence du travail empêché, du travail qu'on veut bien faire mais qu'on ne peut pas bien faire, qu'on n'arrive pas à bien faire. Par contre, donc elles révèlent le côté plus sombre du métier. Par contre, pour le sociologue, la plainte va être la première donnée à laquelle il va avoir accès pour travailler sur les difficultés au travail des enseignants. Alors, effectivement, pour le sociologue aussi, il est difficile de travailler sur cette question parce que le thème de la souffrance n'est pas un thème de sociologie. Et que d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, nous avons contourné la question en parlant plutôt des difficultés. Et puis aussi parce que la question se pose des indicateurs de la souffrance. Et on peut arriver à voir que tout est souffrance ou que rien n'est souffrance. À quel moment est-ce qu'on peut trouver des indicateurs qui tiennent, en quelque sorte? Alors, il y a les indicateurs physiques qui reviennent régulièrement, qu'il s'agisse des pleurs, qui sont par exemple quelque chose de systématique dans les descriptions qui nous sont faites de situations particulièrement difficiles, de la haine, de la colère, de la fatigue nerveuse et physique. Mais dans tous les cas, les enseignants parlent peu de ça malgré tout, car dire son échec, c'est se fixer sur une identité relativement négative. Or, dans une période où il faut être performant, il faut être efficace, il n'est pas vraiment agréable ni bien vu que de se présenter à autrui sous la forme de cette identité négative. Une enseignante dit, par exemple, quand elle essaye de préciser de quoi il s'agit, noter toutes les hésitations, « Eh bien, c'est peut-être pour pas quoi s'ils étaient, puis moi hein, aussi, je ne veux pas dire que je suis dans le même cas, mais c'est pas toujours facile d'avouer qu'on est soit en difficulté, soit en échec. Donc, c'est peut-être aussi lié à la personnalité de chacun, mais bon. » Donc, de ce fait, la souffrance au travail, nous l'avons remarqué, est plus souvent évoquée par des témoins que par les personnes elles-mêmes. Donc, pour... essayer de malgré tout étudier cet objet difficile, nous sommes partis de plusieurs autres travaux qui avaient réfléchi à la tension qu'il y a entre le secret et la publicité dans les professions, notamment les travaux des sociologues interactionnistes comme Hughes, Becker ou Goffman, qui montrent comment le secret permet la gestion et la régulation des professions, comment il empêche l'interchangeabilité et donc participe d'une qualification des personnes. Mais d'autres travaux, comme ceux de Dejour, montrent aussi que le secret sur les difficultés du métier sont des solidarités qui sont aussi des défenses d'un métier qui ne veut pas se montrer comme défaillant. Toujours est-il que le premier objet que nous rencontrons pour étudier les difficultés au travail des enseignants, c'est la plainte. Et il a bien fallu que nous fassions avec cette masse de données qui concernait et qui était nourrie de la plainte enseignante. Alors, à l'issue de cette recherche, nous pouvons dire que cette plainte, elle est à la fois, elle est ce qu'on a appelé un discours socialisateur. Ça permet de mettre en scène le travail enseignant. C'est en fait quand le débat sur le travail semble impossible, que les issues ne sont pas perceptibles, que la lamentation reste ou devient le mode d'expression essentiel. La plainte, en fait, révèle cette situation. Alors que quand on est dans le domaine de la critique, et nous avons essayé d'opposer justement la logique de la plainte à la logique de la critique vise à changer la situation. Elle demande un effort réflexif et elle implique le collectif, mais d'une façon différente. Donc, au total, la publicité de la lamentation accompagne plutôt le secret des difficultés. Et nous avons vu que selon certains établissements où il y avait plus de difficultés, il y avait plus de publicité de la lamentation et plus de secrets sur les difficultés. Donc au total aussi, on peut dire que la lamentation n'est pas une aide ou est une aide bien faible pour dépasser ou gérer les difficultés. Mais elle révèle plutôt la difficulté la plus répandue sans doute, la difficulté à prendre en main collectivement les difficultés à enseigner, à exercer le métier d'enseignant actuellement. Autre point que nous avons, qui ont fait partie de nos choix pour essayer d'aborder cet objet difficile, ça a été, mais je l'ai déjà un peu dit, prendre en compte l'établissement, qui a été une façon d'éviter l'essentialisme et de chercher à saisir le cadre des situations en nous centrant sur les contextes de travail, les situations de travail, et d'éviter également le déterminisme. Les personnes et les logiques sociales se rencontrent dans les situations. Donc l'attention à ces situations a été forte en nous guidant sur des méthodologies empruntées aux interactionnistes. Donc pour nous, et ça, c'est un point de vue qui est discuté, je le sais, mais je le maintiens quand même. On ne peut s'interroger sur le travail enseignant en dehors des établissements scolaires. Donc, nous avons choisi 7 établissements très différents, qui allaient d'un établissement du type d'un lycée qu'on a rebaptisé le lycée Jean Jaurès, avec des classes préparatoires et des professeurs autrefois très investis, maintenant un peu fatigués, un espace agréable, tout ça, jusqu'au collège Langevin, rebaptisé lui aussi, qui est un petit collège dans une zone d'éducation prioritaire passablement délaissée, avec des problèmes de discipline et une équipe assez soudée. Donc le choix de prendre en compte les établissements. Le choix aussi de nous intéresser aux difficultés quotidiennes, au jour le jour, et de ne pas nous centrer sur les souffrances qui paralysent l'action et qui nécessitent éventuellement une médicalisation. Donc c'est pour ça qu'il nous a semblé intéressant de saisir la difficulté qui semble souvent peu légitime, et c'est aussi une des raisons du silence, c'est que les enseignants, dans un monde dans lequel il y a 10% de la population au chômage, dans un monde dans lequel il y a énormément de précarité, ont souvent le sentiment qu'ils n'ont pas le droit, en quelque sorte social, d'afficher leurs difficultés, puisqu'on leur renvoie éventuellement une image de privilégiés, D'abord, ils sont fonctionnaires, ensuite, ils ont des vacances, et puis, ils ont un travail qu'ils ont choisi pour la plupart d'entre eux, ou en tous les cas, c'est l'image qui est dominante. Donc, maintenant, je vais vous parler rapidement des résultats qu'a donné l'enquête auprès de ceux qui traitent la difficulté au travail des enseignants, ce que nous avons appelé les experts, et la souffrance au travail des enseignants. Donc, je vais aller là très rapidement, parce que je voudrais bien que Christophe prenne la suite. D'une façon générale, ces experts caractérisent la difficulté des enseignants à partir des cas les plus lourds. Et la première idée clé est que c'est les cas des enseignants en difficulté n'arrivent qu'au moment où les difficultés ont été portées sur la place publique. C'est quand des parents d'élèves ou des élèves eux-mêmes font en sorte que la difficulté d'un enseignant devient publique que c'est traité comme tel par l'institution. C'est quand il faut qu'il y ait une décision institutionnelle. Le reste reste, c'est le cas de le dire, largement invisible à l'institution. La deuxième idée clé est que pour les experts, la difficulté au travail des enseignants est largement un produit d'importation. Ce qui est mis en avant, c'est la fragilité de l'individu, c'est le parcours individuel, c'est éventuellement le manque de formation, mais c'est très peu, par contre, toutes les questions liées à l'organisation du travail, au contexte de travail, du travail des enseignants. Au niveau du traitement social de la difficulté, on peut dire que les dispositifs oscillent entre traitement disciplinaire, traitement humanitaire, mais la tendance récente est surtout une dévolution du problème au plan, à l'échelon local, avec une mise en réseau des ressources. Voilà, pour ce qui est, je pourrais dans la suite, dans le débat, éventuellement répondre à des questions sur cet aspect, mais je passe la parole à Christophe.
Sur les experts, sur la première phase, il est important de noter, parce que Françoise, bon, j'évite de passer dessus, c'est qu'on voit très bien qu'il y a une montée en charge de dispositifs, en fait, à partir du milieu des années 90, c'est pratiquement daté, quoi, c'est 95-96. C'est-à-dire que là, pratiquement dans tous les rectorats, se met à naître soit au mieux par rapport à l'objectif initial, une direction des ressources humaines, ou un secrétariat général qui s'occupe des problèmes du personnel, naissent des commissions d'aide au personnel, des commissions de difficultés, les assistantes sociales prennent un autre rôle et on se met à recruter énormément hein, dans la fin des années 90 des personnels de type psychologue pour faire de la reconversion, de la réorientation et filtrer, un filtrage en fait des enseignants dits en difficulté avec des dispositifs. Alors le problème évidemment c'est que l'institution n'a pas beaucoup de moyens ou ne met pas beaucoup de moyens dans les dispositifs en question et donc il y a beaucoup de bricolage. On pourra revenir là-dessus éventuellement si ça intéresse des gens, hein, mais on trouve une variété de dispositifs selon les académies extrêmement grande et parce qu'il y a rarement une prise en charge institutionnelle forte. Et ce qui est intéressant en même temps, c'est que du coup il y a une formation qui s'est mise de plus en plus aussi au diapason, hein, on a repéré par exemple dans une académie des fiches hein, pour essayer de repérer en gros qu'est-ce que l'enseignant en difficulté à l'intention des chefs d'établissement, alors qui ont ceci d'intéressant que justement, et c'est tout le problème aussi du déni et du silence qu'il peut y avoir chez les enseignants par rapport à leurs difficultés, c'est qu'évidemment on ne sait jamais en énonçant une éventuelle difficulté la façon dont ça va déboucher soit sur un accompagnement de type pédagogique ou social, ou soit sur un accompagnement de type plutôt disciplinaire. Et que la limite entre les deux est extrêmement ténue. Et qu'évidemment, dans l'incertitude, il vaut mieux se taire. Tout le monde a bien compris qu'il y avait cette possibilité, effectivement, de la catégorisation et du repérage qui est très intéressant. Ce qu'on a essayé de repérer dans cette première phase, justement, c'est comment l'opération de catégorisation de la difficulté après procède à un étiquetage. Alors là, on pourrait évidemment reprendre les travaux en l'occurrence. Sur les difficultés donc au quotidien, on ne va pas pouvoir tout étendre, mais globalement, là, j'aurais eu envie d'intervenir sur un petit modèle qu'on a mis un peu au point à partir de ce travail ethnographique. C'est autour de la prise, de l'emprise et de la déprise dans le travail. On s'aperçoit qu'en fait, il y a deux problèmes particuliers dont la mise en tension quand même est centrale dans les difficultés des travailleurs enseignants. C'est l'enrôlement dans le travail d'une part et l'impossibilité du bon travail d'autre part. Et cette ambivalence-là, cette tension-là est extrêmement importante. C'est elle qui organise centralement les difficultés en question. Et donc l'idée, c'est de montrer, c'est pour ça que dès le départ on était attentif dans l'enquête, à pas seulement souligner ce qui peut faire problème dans le travail, mais aussi ce qui motive et qui donne envie d'y aller. Et on s'aperçoit évidemment que on pourrait appeler prise, même si ça prendra moins de place finalement dans la recherche, mais la prise, c'est justement quand on a la maîtrise des situations. D'ailleurs on dit avoir prise sur une situation. Et que, globalement, on remarque que c'est dans ces situations-là que les enseignants parlent, même s'ils en parlent peu, d'ailleurs c'est intéressant, c'est noté, ils parlent aussi peu du plaisir qui est enseigné que de la souffrance qui est enseignée éventuellement. Mais bon, c'est dans ces occasions-là que, finalement, le plaisir au travail est le plus fort. Le cours qui se passe comme il faut, les élèves qui ont réussi à faire progresser, le sentiment d'avoir une prise, effectivement, la capacité à décider d'un certain nombre de choses, d'organiser. D'ailleurs, c'est pour ça souvent que la logique du projet est évidemment en place, parce que la logique du projet permet d'avoir prise sur les situations, des fois, de leur donner du sens. Et évidemment, on remarque là que ce phénomène de prise sur les situations est évidemment un moment plutôt qui est du côté du plaisir et de la motivation au travail. Et donc après, on a deux autres possibilités qui sont ouvertes. Une sur laquelle je vais m'étendre, c'est l'emprise dans le travail. Alors l'emprise dans le travail, c'est justement quand l'engagement demandé dans le travail devient extrêmement important, sans qu'il y ait un sentiment de maîtrise sur la situation. Et donc l'impression plutôt d'être écrasé par le travail, d'être sous l'emprise du travail. Et évidemment, la troisième possibilité, qui est la déprise, c'est-à-dire qu'on pourrait assez vite interprété comme un désengagement, mais qui ne prend pas toujours la figure du désengagement. Alors elle peut prendre la figure du désengagement, bien que dans des conditions pragmatiques d'enseignement, il soit difficile de se désengager. Donc le désengagement est toujours quelque chose d'extrêmement relatif, quand même, il faut le noter, mais qui peut avoir lieu surtout par une diversité des activités. Ce qu'on trouve beaucoup dans les mécanismes de déprise, c'est la diversification des activités, des enseignants qui relativisent la place du travail dans leur propre univers de vie, qui tendent à avoir des activités très souvent en continuité d'ailleurs. C'est ça qui est paradoxal, c'est que dans le même sentiment, dans le même moment où il y a déprise du travail, il y a en même temps mise en continuité souvent. Alors c'est enseigner à l'extérieur, faire de la formation, aller dans des choses qui sont périphériques. En fait, ce qui semble assez important là, c'est la déprise souvent sur la situation de classe, qui évidemment est une situation qui est parmi les plus problématiques généralement dans l'enseignement. Alors, sur la question de l'emprise, justement, on s'aperçoit là encore qu'il y a une espèce d'ambivalence, alors qu'évidemment, Viviane pourra dire qu'elle n'est pas propre au monde enseignant, ce qui est vrai, mais qu'elle est particulièrement forte, nous semble-t-il, même si on n'a pas de comparaison, dans ce monde-là. C'est justement une ambivalence sur l'engagement et le désengagement. Avec l'idée que, entre la routine, pour aller très vite, entre la routine et le stress. Avec l'idée que, on aboutit à un paradoxe, c'est-à-dire ne plus être soumis à des épreuves provoque un désengagement et diminue la satisfaction au travail, parce qu'on est trop dans la routine, il n'y a plus assez d'épreuves, et en même temps que la soumission continuelle à des épreuves amène à un excès d'engagement qui diminue aussi la satisfaction au travail. Une genre de paradoxe qui nous apparaît très fort dans les entretiens qu'on a pu avoir. Et donc, évidemment, c'est entre autres pour ça peut-être qu'on peut expliquer comment les enseignants sont souvent vus, et là peut-être que à l'inverse de la surmorbidité, on aura quelque chose d'à peu près stable, c'est comme la place que prend la lamentation ou le fait qu'on parle beaucoup, qu'on se plaint beaucoup dans le monde enseignant de sa propre situation de travail, c'est qu'évidemment, entre la routine et le stress, l'occasion de l'insatisfaction au travail est de toute façon quelque part toujours présente. Soit parce que trop proche de l'ennui, soit parce que trop proche du stress, puisque la réponse à un problème est elle-même productrice d'un autre problème très souvent. Et donc on a ici une espèce de dichotomie entre le stress, la routine, l'épreuve et l'ennui, l'incertitude et la sécurité, et qui fait que bien souvent, les routines, justement, sont vues comme une espèce de part morte dans le travail, de passage obligé, qui n'est pas généralement le lieu du plaisir et de la prise, qui, lui, va plutôt se trouver du côté de, justement, la créativité, mais aussi du coup du stress et de la mise à l'épreuve, du risque, de l'incertitude, mais qui elle-même peut développer une espèce de surcharge mentale et temporelle qui, évidemment, fait problème. Et on s'aperçoit bien que les routines sont donc construites. Hein, bon, on a beaucoup de récits sur la mise en place d'une année, qui était quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Hein, c'est quelque chose qui apparaît très fortement dans l'enquête, la mise en place de l'année, le début de l'année, les trois premières semaines, les terrifiantes trois premières semaines, on pourrait les zapper, parce que vraiment, on sent que là, il y a la mise en place justement des routines et de la sécurité, et effectivement, où il y a un travail de vigilance particulièrement fort, hein, un travail d'engagement. Et en même temps, vous voyez, c'est là qu'il y a quand même une sorte d'ambivalence extrêmement forte. Hein. Un engagement très fort pour en fait ne faire que finalement poser des routines. Qui évidemment est quelque chose qui fait que très souvent, on s'aperçoit au fur de l'année que les gens ont très vite hâte en fait à recommencer. En fait, à la fin de l'année, pour recommencer une nouvelle année, reposer des routines, re-s'engager. Avec en fait un processus de désengagement après progressif au fur et à mesure de l'année et le réembrayage sur une nouvelle année et avec la mise en place de ces nouvelles routines. Et donc, le deuxième problème qui remonte très fortement et qui est attenant au premier, c'est l'enchevêtrement des tâches et l'impossibilité du coup de bien les faire toutes. Et là, on a quelque chose qui, là aussi, remonte très fort dans tous les entretiens, et qui peut sembler paradoxal socialement chez les enseignants, c'est le sentiment d'être débordé, d'une part, et le manque de temps. Il y a un problème dans une profession qui est socialement, essentiellement reconnue comme ayant beaucoup de temps. Et qu'en même temps, remonte très fortement l'idée d'un manque de temps. Et en fait, on s'aperçoit, quand on essaye de voir un peu ce qui ferait, ce qui produirait, donc ce sentiment d'être débordé, qui peut vite aller vers quelque chose qui est de l'ordre de l'épuisement professionnel, d'ailleurs, et le manque de temps, on s'aperçoit qu'en fait, les registres sur lesquels, qui composent le métier, sont multiples. Et que la multiplicité de ces registres a même été affirmée et valorisée dans le cadre d'une transformation du métier enseignant. Allant de l'administratif, le pédagogique, le didactique, l'orientation, l'éducatif, enfin, une multiplicité des registres, qui évidemment, dans le même temps, a donné lieu à une différenciation des évaluations. Je peux être bon dans la relation pédagogique, mais être très moyen au niveau de la transposition des savoirs, tout en étant un grand chef dans la maîtrise du relationnel et de l'éducatif avec les élèves, tout en étant assez minable au niveau administratif. Et bon, bref, on peut composer, là il y a une vraie configuration de différents positionnements, avec l'idée évidemment derrière qu'il est généralement assez difficile de satisfaire de manière positive à toutes les évaluations, dans tous les registres. Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a assez souvent finalement une dichotomie entre les tâches plutôt centrées sur la classe et les tâches qui sont plutôt centrées hors la classe, où on s'aperçoit qu'en fait, les tâches qui sont centrées dans la classe font l'objet, finalement, d'un contrôle très indirect, essentiellement par le programme. Ou alors, à ce moment-là, il est direct, mais bon, on verra, c'est un autre registre, c'est évidemment le contrôle direct des élèves pendant le cours, et d'un contrôle à distance. Le fameux système de l'inspection qui n'est pas quand même un contrôle extrêmement proche et extrêmement prégnant sur les enseignants. Même si l'expérience de l'inspection et de l'évaluation, comme on n'aura pas peut-être le temps de voir, on verra tout à l'heure, est quelque chose d'assez fort là aussi chez les enseignants. Et donc, plutôt du coup du côté de la maîtrise individuelle, hein, les tâches dans la classe. C'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre d'enseignants vont situer souvent plutôt la prise et le plaisir dans cet univers-là, les tâches dans la classe. Moi, avec mes élèves, hein, voilà, le reste, basta. Hein. Avec cette propension, c'est un des profils qu'on voit assez souvent, qui est d'être justement celui qui a la maîtrise dans la classe, l'univers pédagogique, mais qui est plutôt en retrait du point de vue de l'institution et du point de vue souvent des chefs d'établissement par rapport à ce qui se passe dans l'établissement lui-même. Et puis du côté de la tâche, des tâches qui sont hors la classe, on s'aperçoit que là, au contraire, il y a plutôt un contrôle direct et de proximité. Et c'est plutôt sur ces tâches-là qu'on va en fait retrouver directement le proviseur, le CPE, le principal, l'infirmière, un ensemble de gens, le conseiller d'orientation psychologue, un ensemble de gens, d'accord, avec qui on va avoir des choses à faire. Et c'est là aussi, d'ailleurs, sur cette dimension-là, que s'est développé le plus fortement le discours sur le travail en équipe, qui, mine de rien, là aussi, concerne très souvent plutôt les tâches hors classe que les tâches directement centrées sur la classe. Et donc, il y a une espèce, ce qu'on voit assez fortement, c'est une espèce d'usure dans la tentative de bien faire tout, hein, d'être présent sur tous les registres, et surtout, souvent, une impuissance à réussir, justement, le bon travail. Avec donc, du coup, tout le doute et l'incertitude qui va entourer la définition de ce que c'est que le bon travail. Et bien évident que, là encore, on ne va pas revenir sur eux, mais qu'on a suffisamment montré pas mal d'études de sociologie des professions, qu'essentiellement une profession se stabilise, construit son identité autour de la définition à peu près partagée, consensuelle, de ce que c'est que le bon travail. On verra même qu'on peut faire une distinction, le bon, le beau, bon, bref. Mais autour de ça, et c'est ça qui, justement, aujourd'hui, fait souvent problème. Et évidemment, c'est ça que Françoise évoquait tout à l'heure quand elle parlait d'une crise de transition, d'accord, que une crise de régression. Hein, ce n'est pas un malaise du tout régressif, plutôt une mutation justement de la façon de définir ce qu'est le bon travail enseignant. Alors, on observe aussi en même temps juste une incise là-dessus, justement, c'est que cette extension des tâches du métier enseignant qui a été valorisée et amplifiée ces dernières années, même si elle existait déjà avant. Il ne faut pas non plus caricaturer sur une époque où il y aurait des enseignants qui faisaient qu'enseigner et qu'aujourd'hui, ils feraient bien d'autres choses. Les enseignants ont toujours fait beaucoup d'autres choses à côté. Là, il y a eu une prise en charge institutionnelle et une transformation volontariste, hein, notamment par les politiques de décentralisation, l'affirmation de l'établissement comme lieu de décision et comme délégation au local de pas mal de décisions. Il y a eu évidemment une extension sur des tâches qui sont considérées comme n'étant pas au cœur du métier. Et là, il y a un vrai, d'ailleurs, qui traverse le monde enseignant, hein, sur la définition de ce qui est exactement le travail enseignant. Et on s'aperçoit qu'évidemment, sur toutes les tâches qui ne touchent pas directement à la transmission des connaissances, les enseignants sont en concurrence quasi directe avec des professionnels de la tâche en question. Il y a des professionnels de l'orientation, il y a des professionnels de la discipline, il y a les CPE, il y a les professionnels de l'orientation, il y a les professionnels de la santé, il y a les professionnels de tout. Et donc forcément, il ne peut exister sur tous ces registres-là plutôt qu'un sentiment de disqualification, qui explique pourquoi, évidemment, remonte assez fort l'idée que on demanderait trop, qu'il y aurait une trop grande surcharge dans cette extension, mais surtout, a priori, parce qu'elle n'est, d'une part, pas très valorisante, et parce que, d'autre part, elle offre, elle est le lieu d'un contrôle beaucoup plus direct de la hiérarchie locale et d'une transparence de son métier, justement. Alors, la dernière chose ici sur l'emprise, évidemment, c'est la tension qu'il y a entre la sphère domestique et la sphère professionnelle dans le milieu enseignant, du fait justement de la fameuse évaluation, du comptage du temps professionnel tel qu'il est organisé. On s'aperçoit là aussi qu'il y a effectivement on comprend le type de problème qu'il y a sur l'emprise et la déprise. On peut décomposer le travail en quatre sphères, en fait. Hein. D'une part, le travail contraint posté. Hein. On peut faire un tableau à quatre cases. Donc, le travail contraint posté. Alors, le travail contraint posté, c'est simple. C'est celui en établissement avec le service, les heures, présence, absence ou pas, les réunions obligatoires. Hein. Ça, c'est le travail contraint posté, ce que les enseignants appellent le service. Ensuite, il y a le travail contraint périphérique. Donc, celui-là, il n'est pas posté. On peut le faire dans l'établissement, on est contraint, mais un peu au moment où on peut. Et donc, c'est le travail de concertation, c'est le travail administratif, gestion des élèves et tout ça, travail logistique, matériel et tout ça. Troisième type de travail, c'est le travail, alors c'est un peu un gros paradoxe, mais j'y tiens, c'est le travail contraint libre, car effectivement, il est en même temps contraint, c'est-à-dire qu'on est obligé de le faire, et les enseignants disent même que c'est ce travail-là qui pollue leur univers personnel. Hein, c'est le travail contraint, mais en même temps libre. Donc, c'est la correction essentiellement de trucs, hein, la correction de copie et la préparation de cours. Alors, correction de copie, d'ailleurs, qui est vraiment la part noire du boulot, hein, ça remonte très fortement dans l'enquête, alors que la préparation de cours est plutôt la part rose, hein, du boulot. Donc, on voit sur ce travail contraint libre deux univers par rapport de rapport au travail différent. Et puis enfin, le vrai travail libre, hein, pour la quatrième case, alors là, qui est en fait le travail de formation personnelle, le travail de lecture ou le travail d'approfondissement du travail contraint libre. Car je peux évidemment passer plus de temps à corriger, je peux passer plus de temps à préparer des cours et tout ça. Et souvent, le travail libre, eh ben, c'est le travail où par plaisir, on accepte de se faire envahir dans la sphère personnelle. On va aller voir une exposition, on va lire un livre qui a lieu par rapport à un thème de cours et tout ça. Et donc, évidemment, le travail enseignant, il faut bien voir que se décompose dans ces quatre espaces. Et c'est pour ça qu'évidemment, il y a d'énormes tensions, parce que ce que décrivent les enseignants, c'est en gros un envahissement progressif de la sphère professionnelle, enfin de la sphère personnelle, pardon, par la sphère professionnelle. Le sentiment d'être débordé vient principalement, en fait, ce que veulent dire les gens, c'est justement la façon dont on essaye de préserver une sphère domestique et personnelle de cet envahissement qui est toujours sous-jacent et qui est d'autant plus fort, évidemment, qu'on veut bien faire son travail. Donc, vous voyez le type d'ambivalence dans lequel va se trouver l'enseignant, soit vouloir à tout prix bien faire son travail, enfin une partie du travail, mais avec le risque d'envahissement, soit rogner sur ça, mais à ce moment-là, c'est rogner sur l'idéal, on en revient sur le topo de tout à l'heure, hein, rogner sur l'idéal, mais donc du coup, c'est d'autres types de sources d'insatisfaction dans le travail, et là, on a affaire à une gestion, pour le moins, pas toujours évidente. Donc c'est et donc, comme je disais, c'est aussi ce qui va permettre d'avoir aussi prise sur les situations en même temps. D'accord ? L'organisation de ce travail et la façon de le préparer, donc de la joie de faire réussir les élèves, car évidemment, si on prend le deuxième paramètre, donc là on est plutôt dans l'enrôlement dans le travail, comment les gens font dans leur rapport au travail, évidemment le deuxième paramètre, c'est l'impossibilité de faire le bon travail. Donc, c'est évidemment tout le sentiment, d'une part, de doute sur les résultats, hein, et donc la détresse profonde. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on mesure fortement dans cette enquête, c'est l'empathie profonde des enseignants par rapport aux résultats scolaires des élèves, hein, et donc l'échec scolaire des élèves qui est quasiment retraduit en échec professionnel des enseignants. Donc, évidemment, il y a quelque chose qui monte très fortement, hein, dans la période. Et en même temps, donc, sur ce paramètre, l'impossibilité de pouvoir bien faire son travail avec comme telles ses missions, quoi, telles qu'on les a imaginées, avec généralement comme en rôle d'accusé, en grosse part l'élève, évidemment, qui est, comme c'est la matière à transformer, eh bien, c'est le premier, évidemment, à être accusé de ne pas vouloir être transformé. Donc, forcément, c'est le lieu de l'échec, c'est là. L'administration, qui vient en deuxième, tient une bonne place aussi. C'est-à-dire que si on n'y arrive pas, c'est parce que les programmes, l'administration, le matériel, enfin bon, tous les éléments du dispositif situationnel de la réussite scolaire qui sont mis en place, voire les parents, des fois, dans certains établissements. Et donc, juste pour finir sur la prise, souvent, c'est justement quand les gens ont oublié, finalement, les efforts que cela leur a demandé de faire cours. En fait, finalement, on revient, hein, c'est un grand classique en sociologie, mais que finalement, avoir prise sur les situations, avoir une maîtrise, c'est justement quand on oublie le travail qu'elles ont demandé. Et que donc, elle semble se faire dans l'aisance. Hein. D'ailleurs, les gens utilisent à ce moment-là, alors là, on est du côté de la nature, hein, le font naturellement, avec une grâce, avec un charisme, avec talent, avec le don, enfin bon, tout y passe, évidemment, puisque la négation du travail, c'est qu'il a réussi à se faire oublier en tant qu'effort. Et s'il a réussi à se faire oublier en tant qu'effort, c'est évidemment parce que le résultat produit, eh bien, lui est considéré comme supérieur. Hein. On est vraiment dans un espace de calcul à ce niveau-là, qui fait qu'on oublie du coup ce travail qui a été produit. Donc, en conclusion, c'est possible là, mais bon, on est un peu... non, ça va, bon. Oui. Non, mais en conclusion, juste quelques lignes de force sur lesquelles on peut revenir. C'est donc, d'une part, donc ce que je disais tout à l'heure, donc la définition du beau travail n'est plus clair, et on le sent très bien. C'est un des lieux, justement, de la difficulté en lui-même, que cette définition du beau travail et son manque de clarification. On sent bien qu'il y a, avec, en même temps, la démocratisation et les réductions des exigences qui remontent fortement aussi, comme façon de gérer la démocratisation, on est dans une quelque chose qui est de l'ordre d'une crise de transition dans le métier enseignant. On sent bien que ce qui est devenu prégnant dans le métier, c'est le travail d'intéressement des élèves. Ça, c'est quelque chose qui est très très fort, hein, le fait qu'il n'y aurait plus des élèves donnés, et que donc il y aurait un travail d'enrôlement des élèves, d'intéressement des élèves de plus en plus fort à faire, que c'est même la partie essentielle du travail, hein, l'intéressement des élèves. Et que la place de l'incertitude, hein, devient plus grande. Et donc, qui dit incertitude, dit en même temps relégation au local, et dit en même temps, et c'est peut-être ça ce qui revient très fort aussi, c'est en fait l'idée qu'on est obligé, hein, que les enseignants souvent sont obligés d'exposer leur propre personne pour pouvoir gérer les situations. Et ça, là, on est dans un mécanisme d'enrôlement et d'engagement dans la situation qui va au-delà de ce qui, évidemment, est attendable des personnes. C'est le soi-même comme ressource, en fait. Ce que les gens expriment plutôt avec, genre, faut des tripes, quoi. Faut des tripes, et puis faut être à l'aise, et puis faut pas être malade ce jour-là, parce que le moindre petit couac, ça va plus. Et donc, ce soi-même, évidemment, comme ressource... alors que c'est une évolution générale, hein, des mécanismes de régulation du travail qui ne concernent pas seulement le monde enseignant, mais qui évidemment, là, met au devant tout simplement les personnes. Et on sent bien qu'il y a cette espèce de profilement, hein, qui était déjà décrit, notamment dans l'école et la justice, qui est que au fur et à mesure que la règle est plus à distance, que la régulation est plus à distance et que la régulation est plus locale, et bien les personnes sont davantage convoquées dans les situations et dans le règlement des situations. Et évidemment, dans cette perspective-là, il est assez clair aussi que l'individualisme défensif augmente les difficultés. Individualisme défensif qui était quelque part le mode de régulation, finalement, de la profession enseignante depuis les décrets de 50, c'est-à-dire, en gros, on a d'un côté des gros statuts qui gèrent la protection du métier, et finalement, bon an, mal an, je ne suis pas obligé fondamentalement d'aller voir beaucoup en dehors pour essayer de régler les situations et d'avoir un niveau de décision local, de travailler énormément de la classe. Je suis dans un individualisme défensif qui a tenu pendant très longtemps. Et là, on voit bien qu'avec les évolutions contemporaines, cet individualisme défensif produit beaucoup de difficultés. Et ce n'est pas un hasard, et ça c'est une des conclusions, enfin, on est méfiant parce qu'il faut toujours être méfiant avec des études qui restent quand même relativement réduites quant au nombre, mais qui sont corroborées, il me semble, par pas mal d'appareillages statistiques, que ce soit les enquêtes de l'FGEN ou des enquêtes récentes de, par exemple, des syndicats comme le SNES sur le monde enseignant, c'est que là où il y a le plus de difficultés objectives, il n'y a pas le plus, c'est-à-dire en termes de recrutement des publics difficiles et tout ça, donc en gros dans les établissements ZEP, il n'y a pas fondamentalement plus de difficultés dans le travail enseignant qui sont repérables et repérées, que ce soit quantitativement par l'objectif, le prisme de la médicalisation comme le fait la MGEM, ou que ce soit qualitativement par les entretiens qu'on a eus dans les différents établissements. Et justement, ça tient au fait qu'effectivement, plus c'est dur, plus de toute façon on est obligé de quitter l'individualisme défensif et d'aller évidemment vers l'entraide collective et la définition le plus possible partagée des situations, de ce qu'il faut faire, du bon travail, de l'émission des jugements de l'un dans le travail de l'autre. Alors qu'évidemment, plus on est loin de la difficulté supposée des publics, plus on est dans cet individualisme défensif, mais qui n'est pas forcément une absence de difficulté. Et c'est ça qui est marquant aussi depuis un certain nombre d'années, c'est que les enseignants n'ont... C'est pas que externes qui ne puissent pas évoquer leurs difficultés. Moi, sur cette enquête, j'étais principalement sur un établissement extrêmement favorisé, enfin extrêmement très favorisé. C'était l'établissement où ça a été le plus difficile peut-être de faire enquête, enfin, ou du moins il y avait un sentiment d'hostilité et d'étrangeté, enfin, genre, pourquoi vous venez faire l'enquête ici? Ça va pas, mon pauvre ami, mais toutes ces difficultés, mais quand même, allez, enfin, il y a tant d'endroits où il y a des difficultés, allez-y. Attends, on y va aussi. Mais, et ce qui est épatant, justement, c'est que on ne trouve pas quantitativement ni qualitativement moins de difficultés dans cet établissement-là. Et que justement, cet individualisme défensif provoque lui-même une grande part des difficultés aujourd'hui dans le monde enseignant. Et donc on est comme des... Bon, vous savez, c'est les grands modèles, hein, on est dans des phases où il y avait une régulation et donc la profession répondait par une régulation aussi. Puis la régulation, il y a une transition dans la régulation. Puis en fait, aujourd'hui, la situation change, mais les régulations professionnelles, anciennes ne sont pas épuisées et persistent. Et dans le doute, d'ailleurs, les gens ont plutôt tendance, c'est aussi ce qu'on peut repérer souvent, à s'y agripper très fortement parce qu'il faut être sûr qu'aller vers autre chose est rentable au niveau du travail et de l'investissement de soi. C'est ça aussi tout le problème.